Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du film qu'on attendait sans doute le plus à Cannes, Mégalopolis de Francis Ford Coppola, présenté en compétition. En fait, je crois que le film, dans tous les cas, a été à la hauteur de nos attentes, simplement parce que le film est extraordinaire au sens vraiment littéral du terme, mais nous avons quand même eu des expériences différentes devant le film et nous avons des choses assez différentes à en dire. Donc José, je me tourne vers toi pour commencer, toi qui aimes beaucoup Coppola et notamment ses films précédents qui ont pu aussi avoir une réputation plus ou moins compliquée chez les cinéphiles, comme ces films d'après les années 2000, que ce soit L'Homme sans âge ou Twixt, que tu as beaucoup défendu et que j'aime beaucoup aussi. Qu'as-tu pensé de Mégalopolis aujourd'hui?
Alors oui, c'est vrai que c'est une chose qui est assez étonnante, c'est qu'on attendait beaucoup le film et en plus nous, on s'attendait à ce que le film divise et qu'il soit dans une veine plus radicale, expérimentale de Coppola. Et je pense quand même qu'on a tous été pris de court et stupéfaits par ce qu'on a vu. Faut préciser que le film divise énormément. Je pense que même on peut, enfin c'est plus qu'une division, c'est-à-dire que c'est un film qui est quand même globalement mal reçu ou qui laisse beaucoup de spectateurs interloqués et qui divise grandement au sein de la revue, puisque on est plusieurs à trouver ça passionnant, mais il n'y a que moi, je pense, qui est vraiment complètement bouleversé par le film. Alors il se trouve que je l'ai vu une première fois et j'en suis sorti, mais vraiment sans voix, avec l'intime conviction d'avoir vu quelque chose d'incroyable, mais aussi de très dissonant et de très violent.
Hier après-midi.
C'est ça, et je l'ai revu ce matin, et je trouve le film toujours extraordinairement riche d'inventions, de profusion d'idées, mais aussi beaucoup plus accueillant presque quelque part la deuxième fois, et ça je suis presque rassuré, parce qu'on pouvait aussi craindre que ce côté très inventif, très foutraque, très forain, soit aussi quelque chose de lié à la découverte, la surprise de la première fois, que ça s'étiole en y repensant, en y revoyant, et au contraire pas du tout. Je trouve que le film en fait cultive quelque chose qui de manière générale me passionne dans le cinéma et qui là est porté à un point d'incandescence que j'ai rarement vu, ou du moins sous une forme aussi radicale, c'est-à-dire de creuser une forme qui soit de prime abord complètement chaotique et qui en même temps, dans l'agencement de sa forme, ménage une forme d'harmonie ou du moins de logique interne, vraiment par sa vitesse, par son embranchement. C'est-à-dire que bon, on a commencé un peu à le dire, mais c'est un film très hybride. C'est un film qui va mélanger, si on veut vraiment aller à l'essentiel, on pourrait dire une extrême modernité, une forme de quelque chose de complètement primitif, puisque Coppola va faire des séquences oniriques qui tirent vraiment parti des images numériques, mais c'est aussi pour revenir quelque part à quelque chose parfois même du muet ou du théâtre, du cabaret. On y parle de Shakespeare, on a des visions en triptyque qui citent Abel Gance, il y a des surimpressions qui peuvent même penser à faire, il y a du montage d'attractions, enfin voilà, il y a un mélange comme ça très étonnant qui d'ailleurs est inscrit dans la logique du récit, puisqu'on est à la fois New York 21e siècle et en même temps on est dans la Nouvelle Rome, on est dans la Rome antique, on est dans les toges, on est dans la boîte de nuit, enfin tout ça, le nouveau, l'ancien se mêle, le pur et l'impur, et aussi les registres, c'est-à-dire que le film va osciller entre de la comédie bouffonne, des scènes qui sont un peu plus ingrates ou même plates dans leur texture, dans leur plastique, et puis des choses beaucoup plus flamboyantes, des choses qui tiennent du mélo, des choses qui tiennent du musical. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de complètement musical, notamment dans le travail des acteurs. Et cette manière de mélanger le pur, l'impur, de mélanger les registres, participe d'une espèce de bouillonnement. Alors moi, je trouve ça passionnant, c'est-à-dire que même quand il y a des élans, même quand il y a des choses qui peuvent relever d'une harmonie, il a une manière de la casser et de créer des choses arythmiques. Et ça, en fait, on voit ça dès la première scène. On voit le personnage d'Anne Driver. Alors, c'est une scène qui a été révélée, que vous pouvez voir, hein, puisque c'est un peu la scène teaser qui a annoncé la projection cannoise quelques jours avant. On voit Anne Driver qui se tient au bord d'un précipice et au moment où il est sur le point de tomber, le saut est suspendu. C'est presque une allégorie du film lui-même qui se tient quelque part au bord d'un précipice et qui surtout qui interrompt un mouvement. Et ça, c'est quelque chose que le film va faire beaucoup, ou va travailler vraiment aussi par le jeu de ses acteurs, par ses intonations, par le caractère complètement outrancier de certains acteurs comme Shia LaBeouf ou Adam Driver, que je trouve extraordinaire dans le film, dans certaines intonations, dans certaines gesticulations, dans une manière voilà, de pirater la scène.
Peut-être qu'il faut essayer de décrire un petit peu le synopsis du film. Vas-y. C'est difficile de s'y aventurer, mais donc en fait c'est une sorte de soap opéra, de film choral autour de plusieurs familles de la Nouvelle Rome, de familles puissantes. L'une d'elles est donc autour du personnage d'Anne Driver, César, qui est une sorte d'architecte de génie qui a inventé une nouvelle matière, le mégalon, avec lequel il rêve de construire une cité utopiste Mégalopolis. Donc c'est une forme d'architecte, démiurge, qui peut comme ça arrêter le temps, mais sans qu'il y ait vraiment d'explication à ce phénomène fantastique.
Que ça soit quelque chose qui creuse vraiment un voilà. film fantastique à proprement parler.
Et sachant qu'il
n'y
a qu'un autre personnage qui semble être au courant des capacités de César dans cette optique-là, avec la famille du maire, donc avec, incarnée par Giancarlo Esposito, un maire plus ou moins véreux, un peu passéiste, et également la famille du banquier. Donc dans une des lignes de récit les plus nébuleuses peut-être du film, sur des histoires d'héritage compliquées, avec notamment une femme journaliste incarnée par Aubrey Plaza, pour le coup dans une bouffonnerie vraiment très assumée. Son personnage s'appelle Wao, c'est son prénom, oui. Wao, qui tourne autour de cet homme-là. Et voilà, et tout ça s'articule un peu au gré, comme tu dis, de pistes qui démarrent pour... ne menait nulle part, de redémarrage, comme ça, un mouvement extrêmement heurté, en fait, du film. Et tu disais, le film divise au sein de la revue.
Ouais.
Moi, j'en suis... voilà, on a vu le film hier,
ouais.
Mais c'est vraiment encore pour moi une sortie de séance, c'est-à-dire que je n'ai pas encore décidé si le film est bon ou pas, ou si je l'aime ou pas. C'est-à-dire que mais quelque part, en fait, le film est suffisamment singulier, et il l'est à un point mais inimaginable, je pense, que en fait ça n'a pas tellement d'importance pour moi de trancher ça tout de suite. Je prendrai le temps, j'ai pas pu le revoir ce matin, mais je prendrai le temps de le revoir plus tard, d'assimiler un peu plus cette matière là mais quelque part je pense que c'est pas si grave, en fait, voilà, de trancher. J'ai l'impression que tu as opéré ce geste là toi ce matin en le revoyant, de vraiment basculer vers « oui, j'en suis sûr, j'adore ce film ».
En fait, là, j'ai plus la moindre doute.
C'est tout à ton honneur, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas encore
Non, mais je comprends tout à fait. Et même d'une certaine manière, je pense que c'est bien de ne pas trancher là maintenant, même si là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu un film très important. Mais tu vois, par exemple, parce qu'on s'est posé une question, qui est une question complètement légitime, c'est de savoir qu'est-ce que ça raconte, fondamentalement. Qu'est-ce que ça raconte, cet enchevêtrement de pensée philosophique, de vision romaine, etc. Je pense que, tu vois, par exemple, ce pouvoir du temps, c'est assez nettement une allégorie de la création et de l'intuition créatrice, qu'est-ce qui l'énerve. D'ailleurs, à un moment, le personnage perd son don, le récupère, fait des espèces d'ateliers de jeu dans son laboratoire qui ressemble un petit peu à rien, et que, quelque part, le mégalon, cette matière un peu mirifique inventée par Coppola, c'est la définition même de l'hybridité, puisqu'on lui oppose, au contraire, quoi ? On lui oppose concrete, steel, explique le personnage qui est joué par Dustin Hoffman, et qu'au contraire, d'emblée, le film vise quelque chose qui serait un peu même bancal, flottant, qui serait cette espèce d'arène suspendue au-dessus d'une carte sur laquelle les personnages se battent pour savoir en fait quelle vision de New York, quelle vision en fin de compte de la création ils veulent projeter. Et le film est à la fois du côté du vieillard généreux que serait Crésus joué par John Voight, il est du côté d'Adam Driver, il est du côté aussi d'un enfant qu'on voit à la toute fin, il est un petit peu à ces différents endroits. Il est d'ailleurs assez drôle, tous les personnages du film presque commencent à s'appeler Francis, il y a une espèce de... ça devient Coppola La City plus que Mégalopolis. Mais je vais donner juste un exemple, tu vois, sur la musicalité. Il y a une scène, je trouve, où un personnage en particulier, c'est le personnage de Bray Plaza, il y a quelque chose que je trouve assez incroyable, c'est que ses mouvements et ses gestes deviennent associés à des sons. C'est-à-dire que ses doigts, notamment, il y a une scène dans un ascenseur, quand elle bouge ses doigts, ça fait des tintements d'horlogerie. Et ça se recoupe plus loin avec une paire de ciseaux où en fait elle réorganise le montage dans un triptyque. Et c'est un personnage qui, par ses doigts et par le son, commence à réagencer le montage, commence à passer au premier plan de scènes qui semblent presque des rejeux de la mort de César par Brutus. On dirait des scènes de sénateurs où on complote un petit peu dans des termes ou dans des bains, etc. Et ça passe aussi une scène incroyable où elle essaye d'hypnotiser un personnage avec un collier de diamants, dans une scène incroyable où d'ailleurs Adam Driver, on ne sait pas pourquoi, se dédouble dans une espèce de multitude de figures mordorées et hybrides. Et ça, c'est quelque chose qui passe aussi par le jeu des acteurs, par les intonations, par le côté complètement musical. Par exemple, Dan River, il y a des moments, commence à faire des claquettes, il commence à danser. De son côté, le personnage notamment de Shia LaBeouf est un personnage qui surgit beaucoup dans le montage, qui fait des sauts de cabri, qui quand une chanson par une espèce de vestale Erzaz de Taylor Swift descend du ciel, fait jaillir une bouteille de champagne. Il y a quelque chose de ce bouillonnement-là,
en fait,
qui passe par toutes les parties du film,
ouais.
qui est complètement organique, incroyable, passionnant, foisonnant. Et quand on voit le film, c'est une espèce de montagne, enfin, c'est une montagne d'effets, une montagne de couleurs, de choses complètement hybrides, etc., mais qui s'inscrivent dans une logique presque, mais moi je pense énormément, c'est un truc qui me passionne aussi, je pense énormément au free jazz quand je vois le film. C'est-à-dire je vois un peu le film comme j'écoute un morceau de free jazz, c'est-à-dire que je suis pas toujours la logique, je me fais emporter par un virage, par un instrument, par une inspiration, et le film me laisse complètement captiver,
en fait,
abasourdi en permanence.
Pour pour te suivre un peu sur cette idée-là, en fait, j'ai l'impression que presque à chaque scène, le film invente de nouvelles règles ou un nouveau langage, ouais. Un nouveau rythme aussi. C'est très curieux. Moi, je dois dire, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant dans le film, c'est-à-dire que vraiment, j'étais littéralement bouche bée une partie du film. Et en fait, au bout de vraiment une heure et quart, j'ai regardé ma montre et à ce moment-là, j'ai dû accepter. Enfin, il s'est passé quelque chose en moi, je me suis dit « Ah, donc le film que je suis en train de voir est vraiment Mégalopolis de Francis Ford Coppola » et j'ai dû accepter à ce moment-là qu'il ne restait qu'une heure et que j'avais vu une grande partie de ce film-là. Et donc c'était assez curieux à emmagasiner et à partir de là, parce que en fait le film, là où il y a quand même une certaine déception qui se cultive en moi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Je ne peux pas couper 10 minutes de ce film-là, les regarder d'un bloc et trouver tout bien. Pendant 10 minutes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jaillissements absolument fous dont on voit d'ailleurs des extraits dans le deuxième trailer qui est sorti.
Dans la vraie
vraiment,
bande
annonce. Il y a des petits moments comme ça où d'un coup, je ne sais pas, le montage s'envenime, les idées aussi semblent s'accélérer soudain. Et là, vraiment, je suis vraiment fasciné par ce que je vois. Et ensuite, il va y avoir 10 minutes extrêmement verbeuses de comédie pas vraiment drôle, enfin qui devient drôle parce qu'on la regarde à une distance complètement folle. En fait, il y a une forme de...
Alors,
le film cultive une forme de late style, on appelle ça pour le style des cinéastes tardifs, un peu comme ça, comment dire, un style au vif, quoi, qui à la fois juvénile et en même temps vieillard. Ça m'a fait penser parfois au Domino de Palma, par exemple, mais qui restait dans quelque chose, mais ce qui n'est pas quelque chose de mauvais pour
non,
moi,
non,
c'est quelque
d'accord.
chose qui me touche beaucoup, mais
alors...
qui restait Domino dans une forme de série B assumée, là où c'est quand même l'inverse chez Coppola, c'est-à-dire que c'est un film à 100 millions de dollars. Enfin, le film est aussi fascinant pour ça. Je trouve qu'on ne peut pas se détacher de ce que ça représente dans la vie de Coppola de faire ce film, de vendre ses vignes pour le faire. Enfin, y a une espèce de côté pyramidal, enfin de Cléopâtre, quoi, de Mankiewicz, mais avec une filmographie personnelle, quoi. C'est pas Hollywood qui sombre, c'est vraiment l'empire coppolaïen qui sombre, et c'est assez fascinant à regarder qu'on aime le film ou pas, enfin.
Je suis assez d'accord. Alors, je vois que notre caméraman nous dit qu'on est bientôt arrivé au bout, mais je pense que comme c'est un film
c'est
important, on peut se permettre
de
faire une rallonge, c'est un peu ça. Alors voilà, un truc très important, et je pense qu'il faut le dire, c'est que le geste est assez fou, voire suicidaire, mais il ne faut vraiment pas limiter le film à ce geste-là. Et je pense
non,
que
non.
ça serait une des limites qu'on pourrait avoir, non, mais je veux dire, même dans une défense un peu romantique du film. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas le film pour le geste, j'aime le film pour ce déluge de forme. Et ce que tu dis, par exemple, sur cette idée de j'arrive pas à isoler 10 minutes, c'est que je pense qu'en fait, le film est un espèce de ruban infini d'images qui se télescope. Par exemple, la scène du cirque est un long bloc, il y a vraiment un entrelacement, un moment absolument fou entre des personnages qui fracassent des vitres avec leur tête, avec Adam Driver qui commence à devenir un homme pieuvre, des scènes au ralenti, des mimes, des funambules dorés, tout ça s'enchaîne. Et même, tu vois, par exemple, les scènes que je sais que t'aimes moins avec Shia LaBeouf et Aubrey Plaza, moi je suis très frappé par exemple la visite où il y a voir Crassus, elle a l'air complètement défigurée. Il y a un raccord absolument fou qui emmène ensuite sur le personnage de Shia LaBeouf qui fait une espèce de scène d'impro, de théâtre, de fac, c'est-à-dire il jette son chapeau, il y a son second qui jette son chapeau, il y a encore des gens qui jettent son chapeau, on sait pas pourquoi ils jettent leur chapeau, ça embraye sur une scène de sexe qui est dédoublée par des ombres chinoises, et en fait chaque image en appelle à une autre, ouvre sur une autre, il y a un côté gargantuesque qui fait que moi je trouve que peut-être qu'on peut pas isoler un bloc de 10 minutes parce qu'en fait c'est une espèce de bloc continu ininterrompu. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ça, le scénario a un côté très... Moi, je le trouve, en revoyant le film, plus clair, mais c'est vrai qu'il va à toute berzingue, qui fait disparaître des personnages parfois en un raccord. Il y en a d'autres qui reviennent, qui ont disparu pendant 40 minutes. Il y a un côté, mais un appétit de fiction et de cinéma pour ouvrir un objet qui, à mon avis, est complètement expérimental dans son inspiration, dans sa vitesse, dans son intuition. Et c'est pour ça que moi, le film me passionne. C'est-à-dire, même, j'ai l'impression qu'il va me falloir plusieurs fois avant d'en faire le tour.
Oui.
Et quelque part, est-ce que c'est pas ça qu'on attend du cinéma? C'est pas d'avoir l'impression d'être rempli par un film après la première fois. Mais là, je sais que c'est un film que je vais revoir un certain nombre de fois et qui commence déjà à me hanter, à m'habiter et à m'inspirer en permanence. C'est vraiment, en ça, c'est une projection extraordinaire.
Je terminerai là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a pour moi un peu une forme de nœud qui est que tu prends le film et je suis tout à fait d'accord que c'est une bonne manière de le prendre comme cette espèce de geste un peu d'art moderne quelque part. On parlait des Demoiselles d'Avignon hier, je me souviens, en étant comme ça un peu pris dans la fougue du film. Moi, là où j'ai peut-être un souci avec le film, c'est que j'ai l'impression qu'il croule quand même sous toute forme de discours, plus ou moins de citations, et que quand même sur des questions de l'utopie, de la démocratie, on enchaîne un peu Rousseau, Marc Aurèle, un peu beaucoup de citations d'étudiants L1 en philosophie qui... même si peut-être qu'il y a un côté ironique, j'ai l'impression que là, on passe un peu de la candeur
au gâtisme,
j'allais dire la sénilité, pour moi c'est un peu cruel. Enfin, disons que là-dessus, j'arrive pas à démêler vraiment les fils de tout ça pour vraiment apprécier le film dans ce pur geste débarrassé de toute vision un peu totalisante du monde, parce que j'ai l'impression quand même que Coppola a un peu envie de faire ce film philosophique là qui à mon avis quand même passe un peu à côté malgré la fascination qu'éprouve le film.
Écoute, tu sais quoi, je pourrais te répondre et on pourrait continuer la vidéo pendant une heure, mais je pense que c'est très intéressant qu'on finisse là-dessus. C'est-à-dire, je te propose qu'on reprenne cette conversation et on reprenne ce débat sous une forme ou une autre, même à Criticat, quand le film sortira.
Non, mais je crois qu'en tout cas on n'a pas fini de parler de ce film là sur Criticat.
Il y a des choses à démêler, il y a des choses voilà.
Mais qu'en attendant, c'est assez difficile pour nous, mais le festival de Cannes continue après Mégalopolis. C'est assez difficile de continuer à avoir des films parce qu'on ne cesse d'y repenser à rebours. Mais quand même, on se retrouve demain pour une autre bulle cannoise et on va laisser la parole à Corentin pour la carte blanche du jour. En plus, je crois qu'il a vu un film qu'il a beaucoup aimé. Merci beaucoup.
Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve après le débat sur Mégalopolis auquel j'ai pas participé, j'aurais eu des choses à dire, mais bon, on aura le temps d'en parler un peu plus tard ensemble. Moi j'ai vu, et j'en sors tout juste, donc ça va être un petit peu complexe à évoquer, mais je viens de sortir d'une séance assez spéciale, puisque on a pu découvrir donc l'ultime film de Godard. Alors, je vais replacer un petit peu l'historique, on va dire, des derniers films de Godard, parce que c'est pas évident. L'année dernière, on avait déjà eu donc un film annonce du film qui n'existera jamais, Drôle de guerre, qui était un peu présenté comme l'ultifilm, mais en fait, qui ne l'était pas. Là, on a eu une sorte de projection combinée avec, d'un côté, donc scénario avec un S, qui est un film d'une vingtaine de minutes, je crois, qui est un peu dans la lignée du livre d'images. Et de l'autre côté, donc un court-métrage aussi qui est là réalisé par Fabrice Aragno, son collaborateur depuis plusieurs années, qui filme Godard en train d'expliquer ou d'exposer le film annonce du film scénario. Alors je sais que ça paraît un petit peu compliqué dit comme ça, mais en fait c'est assez simple. Dans le premier film, on va avoir un montage un petit peu sur qui raconte plusieurs choses, qui est un montage d'extrait en deux parties avec une partie ADN, une partie IRM, donc l'origine et la fin. Un travail sur le son assez exceptionnel, un petit peu comme d'habitude chez Godard. On entend une sorte d'alarme d'IRM, en fait, de scanner couplé à un bruit d'usine pendant plusieurs minutes sur des images tirées de plusieurs films. Ça donne l'impression un petit peu d'assister à une sorte d'usine en marche, en fait, dans laquelle on va produire plein d'images et des images de mort, notamment. Donc c'est un film assez funeste qui a notamment une surprise assez magnifique à la fin. Je ne vais pas le dévoiler parce que j'imagine que le film va sortir un jour, probablement sur Arte. Parce que Arte coproduit, donc vous pourrez le voir, je pense, bientôt. Une dernière image, une sorte de coda, voilà, de Godard qui nous dit adieu. Je vous dévoile pas plus ce qu'il en est. Et puis le deuxième film, je détaillerai un petit peu plus, je pense, en texte sur Criticat, parce que là j'ai pas énormément de temps. Le deuxième film qui est donc un exposé où en fait tout simplement on voit Godard au travail. Et là c'est assez passionnant. Moi ça m'évoque beaucoup un petit film qui s'appelle Reportage amateur Maquette Expo qui m'avait beaucoup marqué, où on voyait Godard expliquer à Anne-Marie Mieville, sa compagne à l'époque, un sorte de projet d'exposition avec une petite baguette en bois. Il expliquait un petit peu ses choix. Et là, ce qui est intéressant, je vous donne juste un petit détail, c'est qu'on a souvent dit que Godard était un cinéaste un peu cryptique, un peu intellectuel, un peu repoussoir des fois. Pour moi, c'est tout l'inverse. C'est vraiment un cinéaste ludique, très ouvert, dans lequel on peut prendre un petit peu ce qu'on veut. On ne comprend pas tout, c'est pas grave. Et en témoigne l'une des pages de cette espèce de livret qu'il présente, hein, parce que c'est un livret d'un projet de bande-annonce, d'un film qui n'existe pas, donc. Dans lequel on voit une image où à un moment Godard dit « Alors là, voilà, c'est une image, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. » Et il le dit lui-même. Pareil, et un chapitre qui se conclut sur une citation de Merleau-Ponty. Je ne vais pas faire la citation en entier de tête, je ne m'en souviens plus, mais ça commence comme ça. Le visible a... la particularité du visible, c'est qu'il a une part d'invisible. Et à la fin, Godard commente cette citation en disant « Voilà une citation pour conclure un petit peu mystérieuse. » Il n'en dit pas plus. Il y a quelque chose comme ça, d'une forme de jeu permanent chez lui. Et c'est un film qui, je pense, peut vraiment aussi aider au fait à entrer dans l'œuvre de Godard. Et ce qui est très beau, c'est que c'est donc une porte d'entrée au moment où sa filmographie se ferme, puisque là, on a probablement vu les tout derniers films de Godard à Cannes. C'était quelque chose d'assez émouvant.